En France, la politique contre les patois était carrément brutale, avec des punitions qui ne pardonnaient pas. J'ai moi-même un beau-père français qui fait partie de la génération traumatisée, qui ensuite a voulu éviter cette honte à ses propres enfants et qui a cessé de transmettre la langue historique, la langue vernaculaire historique aux enfants. Et c'est là que la rupture s'est produite, en France surtout. Chez nous, ça a été beaucoup plus doux. Mais d'un autre côté, on a ce phénomène de l'industrialisation qui a eu une autre influence décisive dans l'histoire des patois.
Mais est-ce qu'aujourd'hui en France, avec par exemple l'intégration européenne, est-ce que les particularismes régionaux comme le patois pourraient renaître ?
Il y a des exceptions, mais il est évident qu'il est pratiquement impossible de revenir au patois dans une région qu'il a perdue. Donc ce qui se produit dans certaines régions où la tradition n'est pas complètement perdue, c'est que certains se raccrochent à cette tradition. Et ceux qui parlent le mieux actuellement, ce sont ceux dont les parents travaillaient, qui ont été éduqués par les grands-parents. Là, il y a carrément une transmission par-dessus. Une génération, c'est un phénomène bien connu en France, mais on l'observe aussi chez nous dans le Jura.
Dans le canton de Neuchâtel, le patois avait complètement disparu. Puis cette semaine, on a eu un homme, Joël Rio, qui lui réinvente le patois, décide de recommencer à parler patois, de l'enseigner à ses enfants. Sa démarche, elle est de quel ordre à votre avis ?
Je connais bien M. Rio, je l'apprécie, c'est un homme intéressant qui dit de lui-même qu'il est un doux rêveur. Je peux comprendre son envie de renouer avec une tradition, mais pour moi, la langue doit être la langue d'une communauté linguistique. Je ne pense pas qu'une famille isolée, elle peut utiliser le patois comme une sorte de langue secrète, à usage interne. Mais je ne pense pas que ça puisse faire revivre une langue. C'est une tentative isolée, chez nous en tout cas. Pour l'instant, je ne connais aucun autre Neuchâtelois qui serait capable de se joindre à cette communauté culturelle renaissante. Le fait est que les derniers patoisans neuchâtelois ont disparu dans les années 1920. Et ce sont les vieilles personnes actuellement qui se souviennent encore que leurs grands-parents disaient encore des mots de patois. Mais ce n'est pas assez pour faire vivre une langue. Une langue, pour qu'elle vive, elle doit avoir une fonction dans la société. Quelle que soit sa fonction, elle peut être sentimentale. Et chez M. Rio, c'est certainement une fonction de cet ordre-là. Les langues vivent et meurent comme tous les organismes vivants. Donc je ne pense pas qu'il soit même nécessaire de sauver une langue. Ce que nous essayons de sauver chez nous, c'est le savoir scientifique pour pouvoir avoir accès aux documents que ces périodes historiques nous ont laissés.
Professeur Andrés Cristol, vous êtes un grand connaisseur des différents patois, les patois romans. Justement, est-ce qu'ils sont très différents d'une région à l'autre ?
Alors, le cas extrême, on le trouve dans le canton du Valais, où les locuteurs patoisans ont de la peine à se comprendre d'une vallée latérale du Rhône à l'autre. Et c'est là que je travaille depuis 15 ans. Je commence à comprendre pourquoi ils ne se comprennent pas. Les différences internes, non seulement dans le vocabulaire, mais aussi dans la grammaire des différents dialectes, sont telles qu'il est effectivement difficile de se comprendre d'une vallée voisine à l'autre. Les anciens parlaient du pays de Vaud et de Fribourg, qui étaient relativement proches les uns des autres. Là, dans les régions de plus ou moins de plaine, la différenciation interne était moins forte. Mais par exemple, du côté de Genève, les patois savoyards sont de nouveau très différents des patois vaudois. En ce qui concerne le Jura, on a trois régions linguistiques bien distinctes, avec la Joie, les Franches-Montagnes et la vallée de l'Aimant. Mais ils se comprenaient bien, ils se comprennent bien les uns les autres. Là, la différence est du même ordre que ce qu'on a actuellement entre les dialectes alémaniques. Donc ça dépend beaucoup des régions. Il y a des régions où les différences sont massives, profondes, au point qu'il était impossible qu'ils développent une langue commune. C'était d'ailleurs un point faible des patois romans, tellement différenciés entre les différentes régions, qu'on n'a jamais eu de langue de référence franco-provençale ou franco-comté. En Franche-Comté, oui, les différences ne sont pas si terribles, mais dans le reste de la Suisse romande, les différences sont profondes.
C'est des obstacles géographiques qui, selon vous, peuvent expliquer en partie ces différences ?
Les différences entre les langues ne sont jamais conditionnées par la géographie, mais par la nature humaine. C'est un phénomène que j'ai encore observé chez les patoisans valaisans, qui très souvent, dans deux villages voisins, à l'intérieur d'une structure commune, d'une langue commune, font des choix opposés. Quand il y a alternative, quand il y a variation, ce qui est normal dans les langues vivantes, qu'il y ait variation, on a toujours plusieurs possibilités, plusieurs manières de dire la même chose, mais dans les villages voisins, ils font souvent des choix opposés pour bien se distinguer du voisin. C'est ce que le linguiste genevois Ferdinand de Saussure, au début du XXe siècle, a appelé l'esprit de clocher. Donc c'est dans la tête des humains que ça se parle. Les différences linguistiques se créent dans l'imaginaire linguistique des humains qui semblent avoir un besoin inné de se distinguer de leurs voisins. Pour pouvoir dire, ah moi, je ne suis pas comme lui. Et surtout, je suis meilleur que lui.
Avant de nous quitter, professeur Christol, avant de finir cette semaine consacrée au patois, on vous laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, il appartient aux patoisans. Ceux qui pratiquent la langue, ceux qui veulent la faire vivre, et qu'ils continuent à faire ce qui leur fait envie, ce qu'ils ont envie de faire, c'est toujours bon à prendre.